Monsieur, good day. Je peux avoir le PowerPoint, juste l'image, pour... je peux me rappeler de ce que on dit. Discours d'un roi. Et voilà, dans la série de Matthieu chapitre 5 à 7, nous avons vu, premier jour, les bénédictions du disciple, c'était des béatitudes. Ensuite, hier, le témoignage du disciple, c'était le texte qui parlait de notre rôle de briller dans le monde, devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, le troisième message, c'est sur la justice du disciple. Alors, c'est intéressant qu'il y a toujours, dans le Sermon sur la montagne, un travail sur soi, que Jésus veut transformer notre vie comme disciple. Il a dit d'abord, il y a une nouvelle identité, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Le témoignage passe par les bonnes œuvres qu'on va faire pour Jésus. Mais la troisième chose, c'est plutôt un autre langage, la justice, comme Sam a dit ce matin. La justice de Dieu que nous allons vivre, nous allons comprendre cette justice et nous allons le vivre, la justice de Dieu. Et pour commencer, je pense qu'il y a quelqu'un qui va prier.
C'est déjà fait.
C'est déjà fait. J'ai oublié. Il y a une lecture de texte. Alors, c'est un peu plus long. Hier, nous avons fait simplement une lecture de 4 versets. Et Marie va maintenant lire à partir de verset 17. Merci.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, nom pour nom. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil » et « dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Vous avez un plan de ce matin, si ça vous aide à rester éveillé et vous tirer l'essentiel. Je pense que c'est vers la page 14, je crois. 15, merci beaucoup. Ouais. La justice du disciple. Intro, soyez parfait. Wow, ça commence fort. Mais en fait, n'est-ce pas, c'est exactement où nous arrivons à la fin de ce message de Jésus ce matin, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et même le texte que nous avons lu avec Michel, c'était parler de la perfection. Laissez-moi juste raconter une histoire pour comprendre l'idée de qu'est-ce que ça veut dire soyez parfaits comme votre Père est parfait. Le mois dernier, nous étions, Sandra et moi, dans les Vosges pour fêter l'anniversaire d'un ami. Et bon, comme ça arrive souvent dans les Vosges, il pleuvait. On ne dit pas « il pleut », en fait, c'est juste « il est humide ». Alors, pendant l'après-midi, on ne pouvait pas balader trop loin. On a visité plutôt une mine. Et si vous ne saviez pas, dans les Vosges, il y a beaucoup de mines d'argent. Et le lieu, c'était à la Croix de Mine. Bien choisi comme nom. On portait cap et casque pour visiter la galerie historique, parce que maintenant, c'est fermé, cette mine. Et évidemment, c'était souterrain, et c'était à peu près 120 mètres de tunnel. Et il y avait encore, mais on a visité simplement les galeries qui étaient ouvertes. Et quand vous descendez, évidemment, tout est noir. Et heureusement, il y avait un guide qui avait une lampe, on le suivit. Hein, ces tunnels étaient minces comme ça. Et on passait à gauche, à droite, comme le jeu hier soir. Et après un moment, c'était comme on n'avait rien sous les yeux. On voyait rien. Et en fait, vite, on se perdut. Mais en fait, il y avait ce guide. Et à chaque halte, on regardait peut-être une galerie où on allait par. Et ensuite, on est reparti. On n'a pas encore achevé la visite, heureusement, parce que je voulais ressortir. Et dans une marche, comme peut-être cet après-midi, on commence. Et puis, après un certain temps, arrive à la fin, la destination. Et pour nous, c'était heureux de visiter la mine, mais aussi de ressortir dans la lumière. Et c'est un peu cette idée. Quand on arrive à la fin d'une marche, quand la marche est terminée et complétée, on peut parler de ce que est le sens de perfection. On peut dire c'est l'idée d'arriver à un état où on est accompli. Un homme accompli, un homme complet, est un homme parfait. Dans tout nous arrivons à ce que Dieu avait comme projet, destination, fin de course avec lui. Ce n'est pas dans le sens, comme on peut penser, dans notre langage moderne, de dire « Ah, il est parfait, ben ça veut dire il est sans faute. Ça, ça peut avoir ce sens, mais dans l'idée que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons les hommes et les femmes que Dieu a créés au départ et que nous serons un jour avec Jésus, parfaits dans ce sens complet, dignes d'un enfant de Dieu. Ce que Jésus veut pour nous, c'est qu'on soit parfait, digne d'un enfant de Dieu, complet. Et c'est là où on va suivre Jésus, qui a cette autorité pour nous faire comprendre quelle est la justice et peut nous accompagner pour y arriver. Ça, c'est super, n'est-ce pas? On sera parfait comme le Père est parfait. Et si je peux résumer le message de ce matin, on ne va pas parcourir tout le texte parce que ça va prendre trop longtemps. On va juste prendre un des 6 exemples que vous avez lus avec Marie. Et je vais traiter particulièrement le texte qui dit « Aimez vos ennemis ». Alors je résume ce matin ce message pour nous. Aimez vos ennemis, suivez le Christ et vous serez le chrétien complet et parfait. Aimez vos ennemis, suivez le Christ, et vous allez devenir le chrétien complet et parfait. Dans le texte, on lit dans verset 20, « Notre justice sera supérieure à celle des scribes et des pharisiens, des pros de la justice. » Et ce matin, je veux annoncer 3 étapes dans cette justice pour arriver à devenir un homme complet et parfait. Première étape, c'est dans les versets 17, ou plutôt, oui, 17 à 20. Je pense qu'il y a une erreur, c'est à cause de moi. Ce n'est pas à partir de 18, mais verset 17. Commençons là, la première étape de la justice, avec Christ. Christ qui accomplit la loi. Christ qu'il faut suivre comme disciple. Il est la clé pour arriver à la justice. Alors, dans cette partie, la première étape de la justice chrétienne, il y a 2 choses qui sont mentionnées ici. D'abord, il y a Jésus-Christ et la loi, versets 17 et 18. Et ensuite, il y a une deuxième chose, vous, le chrétien et la loi. Jésus et la loi, et vous, le chrétien et la loi. Et finalement, ce qu'on arrive à voir, peut-être à notre grande surprise, ayez de bonnes attitudes envers la loi. Combien de fois dans le milieu évangélique, on se moque de ceux qui respectent la loi. On dit, nous ne sommes pas des gens de la loi, mais de la grâce. Mais vous n'allez pas passer par la première étape de la justice sans avoir des bonnes attitudes envers la loi. Écoutez votre roi qui dit, la loi s'applique à nous, les disciples de Jésus. Regardons encore. Christ et la loi, versets 17 à 18, on va le relire. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Christ honore, respecte et accomplit la loi. Ayez de bonnes attitudes envers la loi pour arriver à la justice. Si on n'a pas cette idée, on ne va pas arriver à la justice. Quand j'étais étudiant, j'aimais marcher pour plusieurs jours dans les lieux isolés, insolites. Moi, j'aime bien les voyages dans les lieux peut-être imprévisibles. Et un jour, après 5 heures de marche, j'étais en Nouvelle-Zélande, je suis arrivé à un carrefour, à gauche ou à droite. J'avais encore 5 heures avant d'arriver à ma destination. C'était une longue journée de marche. J'ai choisi la voie gauche après avoir regardé mon plan. Et plus tard, j'ai compris que je me suis dirigé dans le mauvais sens. Alors, je devais revenir sur mon chemin. J'ai dit, mais comment j'ai regardé mon plan. Et c'était extraordinaire Quand je suis arrivé au point où il y avait le carrefour, il y avait un panneau de 2 mètres de hauteur pour signaler quelle était la direction à gauche et quelle était la direction à droite et la destination des deux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas regarder ça? Mais certains d'entre vous me connaissez, vous dites, oui, c'est normal. Alors, je suis reparti dans le bon sens. Christ est notre boussole ou notre orientation pour comprendre la loi. D'accord? On a besoin de garder la loi, mais Jésus dit, j'accomplis la loi. Il est la boussole pour bien s'orienter quand on lit et on veut pratiquer la loi. Tout en sachant que la loi reste importante pour Jésus et comme pour nous, il faut avoir aussi Jésus au centre de nos pensées quand on lit la loi maintenant comme disciple de Jésus. Certains d'entre vous, vous faites niveau 2. Vous savez ce que ça veut dire de commencer maintenant à lire l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. Et si vous êtes en niveau 1, je vous invite à revenir pour le niveau 2. C'est très important parce que c'est exactement ce que Jésus nous encourage à faire. C'est... Je ne sais pas comment ça s'est arrivé dans le sermon sur la montagne. Mais en tout cas, on apprend que Christ est le point de repère fondamental. Ce n'est pas simplement des histoires des enfants. Joseph, Moïse, David, soyez comme eux. Ce n'est pas la façon d'interpréter à la base l'Ancien Testament. Il faut passer par la lecture de l'Ancien Testament, Jésus, et ensuite, quelles sont les applications pour nous. Peut-être je peux le dire d'une autre manière. Cette loi qu'on va centrer sur Jésus, moi je décris comme la loi de Christ. La loi de Christ. Pour faire la justice, il faut savoir et obéir à la loi de Christ. Parce que c'est quand même un changement de suivre la loi et Jésus au centre. Je vais expliquer. Parfois, Jésus a abrogé la loi. Parfois, il a dit, il faut encore continuer à respecter cette loi. Mais en tout cas, dans les deux, il a surtout dit, j'ai accompli la loi. Il y a dans certains cas de cette loi de Christ, où il n'y a pas de continuité, on ne va plus appliquer les lois, par exemple, de sacrifier des animaux. Mais il y a aussi, dans la loi de Christ, des choses qui continuent à s'appliquer à la vie chrétienne. La loi de Christ respecte et accomplit la loi, mais c'est Christ qui reste au centre. Et je ne peux pas énoncer toutes les nuances de ce que je viens de dire, mais c'est Christ qui est la loi de Christ pour nous. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et la loi, alors, reste toujours pertinente. Ayez de bonnes attitudes envers la loi de Christ. Et ce n'est pas si abstrait que ça. Il y a des chrétiens qui sont d'origine musulmane ou juive. Est-ce qu'ils mangent du porc ou ils ne mangent pas du porc? Il y a, dans notre GBU cette année, il y avait des adventistes qui s'intéressaient à la Bible. Peut-être que vous ne connaissez pas cette église. Il y avait des débats. Est-ce qu'il faut pratiquer le sabbat le samedi, le dimanche, tous les jours ou n'importe quel jour? Vous voyez? La justice est la justice de Christ. Jésus est notre Père qui donne tout le sens à la loi et ayez de bonnes attitudes envers la loi de Christ pour réaliser la justice. Ensuite, on voit aussi non seulement Christ et la loi, dans versets 19 et 20, il s'adresse à nous. Vous et nous, quel est le rôle du chrétien et la loi? Versets 19 et 20, je vais le lire. Celui qui donc violera l'un des plus petits commandements, alors il s'adresse à nous, n'est-ce pas? Écoutez bien. Qui, vous et moi, violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, c'est-à-dire non seulement notre attitude, mais comment on fait aussi passer le relais aux autres, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Votre place dans le royaume des cieux dépend de votre attitude, n'est-ce pas, envers la loi. Verset 20, car je vous dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Et c'est vrai que dans ce serment, il semble que ce n'est pas suffisant simplement d'écouter la loi, mais particulièrement, il insiste sur l'obéissance, la mise en pratique. Celui qui écoute ce message ce matin, c'est bien. Mais celui qui le met en pratique, lui, il construit sa vie sur le roc. Ça, c'est la fin de ce message. L'obéissance, non seulement l'écoute, Jésus ne supprimera rien de la loi. Et c'est important, ne prenons pas Calvin, Jean Calvin a dit ceci, ne prenons pas Jésus pour un nouveau législateur, mais comme un fidèle expositeur. Et pour nous, on écoute Jésus ce matin et on dit, comment le faire? Ben, je vais vous donner deux scénarios, deux types de personnes dans cette salle, et vous allez choisir peut-être dans quelle tendance vous êtes. D'un côté, il y a des légalistes, oh, c'est pas moi, mais écoutez bien. Il y a des légalistes, comme des pharisiens, qui réclament d'être zélés pour Dieu. Alors, ça, c'est pas si mal que ça. Vous êtes zélés pour Dieu? Les interdictions et les limites de la loi, il faut respecter au pied de la lettre. Et ça, c'est une bonne chose. La Bible est prise au sérieux. Mais finalement, cette attitude, cette lecture des lois, de limiter particulièrement le commandement à certains cas, et bien sûr, comme des pharisiens, ils tournaient les pires missions à leur profit, ce sont des attitudes d'un légaliste envers la loi. Mais peut-être ça, vous dites, je ne suis pas de ce côté. Mais de l'autre côté, il existe des libertines. Pas les légalistes, mais les libertines. Je vais expliquer, vous dites, non, ce n'est pas moi. Les libertines chrétiennes, qui excluent le rôle de la loi. Ou les libertins, c'est mieux? Merci. Bon, je pense qu'il y a des problèmes des deux sexes, hein. Les libertins, les libertines, et chrétiens, chrétiennes, qui excluent le rôle de la loi. Et je pense que ça, c'est plutôt une tendance qui existe dans le milieu évangélique. J'entends souvent que nous, les vrais, vivons selon l'amour de Christ. Tout est amour. Ils considèrent la loi comme rigide et autoritaire, et aussi tentés d'assouplir son autorité et se dégager de son emprise. Oh, ça c'est trop rigide. De penser à ce que je regarde à la télé. Ce que je fais si je copie ou je enregistre des chants qu'on peut télécharger. Oh, ça c'est trop rigide. Mais ce sont des débats qui valent la peine de le faire. Parce que Christ, il nous montre dans les six exemples que nous avons lus, n'est-ce pas? Il y a la loi. Et après, à chaque chrétien de respecter et obéir la loi dans toutes ses dimensions, dans toute sa largeur. Il faut, et on va voir ça, il faut aller même plus loin que ce sermon sur la montagne. Vous n'avez que six exemples. La loi dit ceci, Jésus vous dit ceci. Et vous avez plusieurs d'autres lois où vous devez voir la largeur, l'ampleur, n'est-ce pas, de réaliser la loi. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser votre intelligence pour obéir à la loi de Christ? Ça, pour moi, c'est le principe de la justice chrétienne. De voir toute l'ampleur de la loi qui est juste et bonne pour notre vie, utiliser votre intelligence pour passer à l'obéissance. Ça, c'est un principe important. La première étape de la justice. Alors, si vous regardez le texte comme moi, nous avons plusieurs exemples, comme on a mentionné tout à l'heure, il y a six exemples. Et nous n'avons pas le temps pour examiner 6. Ça vous rassure ? On va juste regarder un exemple. Et ce n'est pas le moindre, parce qu'après avoir traité Jésus, elle a traité la question de colère, de convoitise, fidélité dans le mariage, intégrité dans nos propos, la renonciation. Il parle à la fin du geste de l'amour. Aimez vos ennemis. On va s'amuser, hein. C'est le plus difficile à comprendre comment on peut arriver à faire la justice de la loi de Christ dans ce domaine. Ça nous arrive peut-être peu de fois. Peut-être vous connaissez mieux que moi la lutte pour arriver à cette justice. Aimez vos ennemis. Alors voilà, j'ai dit la première étape, ayez de bonnes attitudes envers la loi pour pratiquer la justice. La deuxième étape, c'est comme pour Jésus, passer maintenant à l'action. Quels sont les domaines précis où on doit passer à l'action de la justice ? Si nous regardons maintenant la partie vers la fin où on parle d'aimer les ennemis, vous avez verset 43 à verset 45 qui parle particulièrement de ce thème. Je vais le lire. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est la loi. Cette loi s'applique toujours. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est quand même intéressant juste de noter qu'il y a cette antithèse, n'est-ce pas ? Une opposition. Vous avez entendu, je vous dis. Moi, je trouve qu'il y a deux choses, juste pour commencer. Qui est Christ quand il parle de cette manière ? Christ prend toute l'autorité de dire, vous avez entendu de Moïse, vous avez l'ancienne alliance, mais moi je vous dis, je suis supérieur à Moïse. Je peux même articuler mieux la loi de l'Ancien Testament parce que je suis l'envoyé de Dieu lui-même. Jésus prend la place ici de toute autorité sur les paroles que nous avons dans toute la Bible, parce que lui est la source de la parole de Dieu. Il est parole de Dieu, n'est-ce pas ? Vous entendez ce matin la loi qui vient directement de Dieu, parce qu'on entend Jésus. Nous avons cette antithèse, et dans verset 44, nous avons ceci. Il explique maintenant le commandement. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Bénissez ceux qui vous maudissent, première chose. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, deuxième chose. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Trois choses. Il veut passer à l'application. Vous avez la même façon de procéder avec Jésus. Antithèse, explication du commandement et ensuite une raison. Dieu nous donne toujours de bonnes raisons pour suivre son chemin. Quand on regarde ce texte, on dit, mais d'abord, qui sont mes ennemis ? Ben, il me semble, on peut avoir des ennemis, peut-être des gens qui vous dérangent à la fac, au boulot. C'est parfois même la famille qui veut vous faire du mal. Ça peut exister. Mais je pense que c'est particulièrement ici, n'est-ce pas ? À la dernière partie, il dit, verset 44, « Ceux qui vous persécutent ». Et c'est vrai, dans la vie chrétienne, Jésus nous a déjà prévenus dans la première partie, « Heureux serez-vous jusqu'on vous insultera, on vous persécutera et on répondra faussement sur vous. » C'est toutes sortes de mal. Ce sont des ennemis vraiment qu'on peut dire, mais comment je peux aimer ces ennemis ? Vous avez entendu, Jésus dit. Les Juifs, même à cette époque, aimaient le prochain. Mais c'est vrai, Jésus connaissait aussi le milieu, parce qu'ils ont aussi ajouté, non seulement tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est bien équilibré comme philosophie, hein. Apparemment, à l'époque, nous savons que des scribes, des responsables juifs, des experts de la loi, ils dictaient cela. Vous étiez en train de marcher sur un chemin, on va monter un peu plus haut, et sur le chemin, vous croisez un champ où il y a des non-juifs. Qu'est-ce que les scribes faisaient ? Ben, vous voyez un bœuf embourbé dans la boue. Vous sortiez cette bête parce que vous aimez votre prochain. Mais seulement si c'était un champ de juifs. Bien évidemment, si c'était un non-juif, vous pouvez passer de côté. Mais pourquoi pas, pour bien appliquer quand même la loi, on peut haïr même un non-juif. Vous allez vous approcher de ce bœuf, enfoncer le bœuf un peu plus, car ils vous font du mal. Voilà la loi selon les Juifs. Mais la justice, Jésus dit, ce n'est pas obéir la loi, mais enseigner toute la loi dans sa plénitude. Alors Jésus dit, non seulement il faut aimer son prochain, mais aimer aussi ses ennemis. Vous voyez, la loi dans le principe, mais nous qui suivons la loi de Christ, on veut mettre toutes les applications, toute la largesse et la longueur et la profondeur de cette loi en application. Aimez vos ennemis, même ceux qui vous persécutent. Et il y a trois choses qu'il évoque, et j'ai pensé peut-être ressortir ce qui me semble intéressant pour d'autres choses peut-être qui nous concernent, d'autres applications de la loi. C'est-à-dire avoir un amour actif, un amour décisif et un amour créatif. Je vais expliquer ça. Évidemment, il parle de l'amour, mais qu'est-ce qu'il nous demande ? C'est qu'il faut aussi avoir une attitude qui dépasse l'amour du prochain. Je vais juste, je pense, parler un amour décisif. Aimez. Priez. Bénissez. Aimez. Priez. Bénissez. Vous savez, est-ce que dans votre église, vous priez pour les églises persécutées? En France, on parle quand même pas mal de nos frères et sœurs qui souffrent, comme ça peut être le cas. On parle des ennemis. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que nous prions pour le persécuteur? C'est ça l'application « Aimez vos ennemis ». Portes ouvertes nous demande de prier non seulement pour les ennemis, aussi bien que les persécutés. Est-ce que nous prions à cette période de notre vie pour ceux qui proclament une nouvelle loi? Mariage pour tous et d'autres changements éthiques. Nous prions souvent pour que ça s'arrête, mais est-ce que nous prions aussi pour ceux qui font ces lois? C'est aimer nos ennemis. Prier, ça c'est un amour actif. Aussi, il dit important d'avoir un amour décisif. Je vais expliquer cela. Il dit, aimez vos ennemis. Et vous dites, je ne sens pas un amour pour telle personne, mais qui rigole à mon sujet à la fac. Qui dit, c'est ridicule de penser, et il raconte à tout le monde, il parle de vous auprès de vos... Et vos amis, ils disent, ah oui, je ne veux plus parler avec toi-même, l'autre. Comment je peux aimer? Je ne le sens pas. J'ai un article qui peut nous aider, un amour décisive. J'ai lu un article qui parlait d'un rendez-vous entre un pasteur et un couple qui voulait se divorcer. Ils ne s'aimaient plus. Ils avaient une année de difficultés au mariage. Ils ont décidé, ça ne va plus, on va s'arrêter. On ne peut plus s'aimer, on ne peut plus vivre ensemble. Qu'est-ce que le pasteur leur a dit? Pourquoi vous entamez les procédures pour se divorcer? C'est la première question. Ils ont répondu, on ne s'aime plus. J'ai plus de sentiments pour elle. Bon, dit le pasteur, vous devez changer de vie et apprenez à s'aimer encore. C'est un peu rude et direct, mais il a expliqué. Le mari a dit tout de suite, « Je ne ressens rien pour elle. » Pas sympa. Hein? On ne veut pas jouer aux hypocrites. Mais le pasteur lui a dit, « Vous êtes un chrétien engagé dans mon église. La Bible vous annonce que vous allez aimer votre femme. Vous allez aimer votre prochain et vous allez aimer votre ennemi. Alors, peu importe la catégorie, vous classez votre femme, vous allez l'aimer. » Il a raison. Ça veut dire aimer n'est pas lié à vos sentiments. Il faut placer notre amour sur la personne en face de nous, malgré les situations, les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est parfois, je pense, beaucoup plus dur que je peux imaginer, parce que je n'ai pas compris peut-être toutes les expériences. Certains d'entre vous, vous connaissez des situations pires que moi. Aimez vos ennemis. Mais c'est un amour décisif quand Jésus dit, aimez, c'est un commandement. Aimez vos ennemis. L'amour est une action volontaire. C'est un objectif décisif. Et je pensais aussi dire, c'est intéressant quand on passe à cette idée aimer mes ennemis, mais comment je peux bénir, faire du bien à ces personnes qui me persécutent? Alors, il ne faut jamais justifier ce qu'ils font. La justice est toujours justice. Mais on peut souhaiter le bien pour qu'ils reviennent de cette persécution, de ce mal qu'ils vous faites. Je vais raconter une histoire. Un directeur d'une école biblique devait construire une nouvelle salle. C'était pour des cours à son école biblique. Alors, peut-être vous savez, en France, c'est pareil en Australie, on sait que la construction d'un nouveau bâtiment ou un parking pour une église provoque souvent de l'opposition. Et évidemment aussi, dans cette situation, de construire d'autres salles dans la banlieue d'une grande ville, ça a provoqué aussi l'opposition et l'harcèlement du voisinage. Le directeur est parti pour enseigner au camp chrétien. C'était en été, il est parti pour 2 semaines. En été, comme maintenant, c'est aussi la saison qu'on peut récolter des fruits. Et dans ce quartier, il y avait les fruits de la passion sur les vignes dans le jardin de cette école biblique. La femme du directeur avait l'habitude de récolter tout le fruit de la passion, et les congeler. Et c'était un délice. Le pasteur, il a toujours apprécié, après un long camp de 2 semaines, avec des personnes insupportable. On peut pas imaginer ça. Mais il rentrait et disait, « Super, je peux sortir. Ce que j'aime bien. Fruit de la passion, congelé, succulent. » Une année, le directeur est rentré des camps d'été. Il n'y avait aucun fruit de passion sur les vignes. « Ah, pensait-il, il doit être tous dans le frigo. Super. » Il est allé chercher dans le congélateur ses fruits préférés. Rien. Il est allé voir sa femme. « Où est allé ses fruits ?» Sa femme répondit, « Je les ai emballés dans les sacs en plastique et je les ai partagés parmi nos voisins. » D'abord, il se privait maintenant des fruits de passion, mais le directeur se prie à tous nos voisins. Parce qu'il avait des années de difficultés. Des gens qui s'opposaient à ce projet, il avait droit. Et c'était pour aussi l'Évangile. Des ennemis à ses yeux. Alors, surprenant, sa femme était très créative. Elle a dit, « Je vais aimer mes amis. Je veux faire du bien, malgré ce qu'ils nous font. » Une générosité inattendue manifestée face à l'opposition. C'était étonnant. Et en fait, c'était elle qui a pu faire venir 2 ou 3 des voisins pendant l'année à des soirées d'évangélisation dans cette école biblique. Pas l'amour créatif. Parfois, on n'imagine pas quelle est la portée de la loi. Mais soyez créatifs. Aimez vos ennemis. avec un amour actif, décisif et créatif. Et vous serez parfait comme votre Père est parfait. Amen.